insidieuse et elle se diffuse dans tous les pores de la vie d'un individu et dans son monde social de façon inégalée. Mais aussi, il y a quand même, me semble-t-il, quelque chose qui fonctionne, par exemple le fait de vouloir faire quelque chose d'autre et de différent sur le sujet, c'est qu'on ne voudrait pas que ce soit totalement phagocyté dans quelque chose de très officialisé et qui serait vide de sens.
Vivre pleinement, c'est inatteignable, c'est un rêve prométhéen, c'est le rêve libertaire par excellence. Vous savez, Debord disait, pour moi, le communisme, c'est le voyage au bout de la nuit pendant la grève générale. Ça dit bien les choses.
Une sorte d'accomplissement du titre « Ingirumimus nocte et consumimus igni ». Nous tournons en rond dans la nuit et nous nous consumons dans le feu.
Now get up.
Avec
les participations volontaires et involontaires de Guy Debord, Romain de Becquelièvre, Christophe Pourcellier, Boris Donnet, Michel Bernstein, Michel Azanavicius, Patrick Poivre d'Arvor, Jean-Michel Mention, Ralph Romney, Daniel Blanchard, Gérard Bérégui, Augustin David, Attentatif, Anselme Nerveux, Charles de Gaulle, Système, Christine O'Krent, Olivier Poivre d'Arvor, Michel Naudy, Marc Blanchet, Sandrine Trainer, David Pujadas, Laurence Lebras, Serge Danet, Jacqueline de Jong, Thibaut Cavaillès, Nicolas Sarkozy, Pierre Bourdieu, Mataki, Hugo Dimitri, Francis, Philippe Ducomo et Philippe Baudouin.
Une vie, une œuvre, Guy Debord, Isabelle Huel, Thibaut Henton, mixage, Philippe Bredin, Archivina, Stéphanie Placé, attaché d'émission, Laurent Genepa.
Je suis persuadée que les mômes de 20 ans qui sont comme nous, s'il y en a, et il y en a sûrement, bon, bien, quand on avait 20 ans, personne ne nous connaissait. Et personne ne savait si nous allions boire un verre, je sais pas quoi, à Aubervilliers ou dans les Halles. Personne ne savait. Je n'ai jamais dit quand je travaillais que j'étais situationniste, par exemple, ou que j'étais la femme de Guy Debord. Surtout pas. Bon, mais de la même façon, s'il y a des gens maintenant qui font des choses aussi passionnantes ou intéressantes que ce que nous faisions à l'époque, donc on ne les connaît pas. Et nous ne savons pas où. Mais statistiquement, je pense que c'est possible. Et même probable. Non ?
À reprendre depuis le début.
Une vie, une œuvre consacrée à Guy Debord a été diffusée pour la première fois le 20 avril 2013.
Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Il y a la Turquie réelle, et puis il y a la Turquie fantasmée. Une Turquie qui a tout de la carte postale, avec ses décors stambouliotes, ses visites touristiques, du palais de Topkapı au montreur d'ours, sans oublier le folklore, les traditions. L'émission que vous allez entendre dans un instant s'inscrit dans ce registre d'un programme patrimonial, d'une carte postale sonore, conçue comme telle, et qui donne sans doute une assez bonne vision de ce que les touristes européens pouvaient percevoir de la Turquie à la fin des années 1970. En cette année 1978, pour être précis, les sujets de préoccupation, qu'ils soient politiques ou sociaux, ne manquaient pourtant pas en Turquie. Le pays se trouve à cette époque au beau milieu d'une période d'instabilité et d'agitation politique qui mènera 2 ans plus tard, en septembre 1980, un coup d'État militaire, le troisième en 20 ans. Aucune trace de ce climat et de cette agitation dans ce deuxième épisode du Carnet de voyage en Turquie de Madeleine Rico, mais tout de même des jalons historiques, notamment avec l'historien Robert Mantran, qui évoque le lointain souvenir d'Istanbul, capitale cosmopolite de l'Empire ottoman. Voici donc le deuxième épisode du Carnet de voyage en Turquie de Madeleine Rico, la Turquie de 1978, côté tourisme et côté patrimoine, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 septembre 1978.
Bonjour mesdames et messieurs, le commandant Kaladinus et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord du Boeing 727 des lignes aériennes turques. Nous atteindrons Istanbul, notre prochaine escale, dans 2h45, à une altitude moyenne de 11 000 mètres. Nous prions de bien vouloir respecter le signal lumineux, vous demandant d'attacher vos ceintures et ne pas fumer pendant le décollage. Maintenez les doses du dos au siège en position verticale et veuillez placer vos bagages en main sous le siège devant vous. Bon voyage.
Le carnet de voyage en Turquie de Madeleine Rico, accompagné d'Evelyne Frémy et Marie-Rose Derouet. Mai
1978.
Une seule de tes pierres vaut tout un empire, Istanbul. Oh, toi sans pareil et sans prix. Tel joyau scintillant sur deux mers sœurs, ton éclat rivalise avec le soleil. Cet air, cette grâce, ces eaux, oh ville élue, le ciel, mais tu l'abrites en toi, le sais-tu? De la vénusté, tes parterres sont refuge, et les plaisirs s'assemblent en tes coins perdus. Te préférer le monde, quel choix insane. Te comparer l'Éden, quelle faute sans retour. Ton peuple, m'a-t-on compté, est aussi noble que fier. Tes belles, m'a-t-on compté, seraient volages à un brin. Dégrener tes plaisirs, travail fastidieux, nous prétendons le faire dans quelque autre ouvrage. Toi, tu peux tirer gloire de la joie qui t'habite et de ta pure beauté. Ton nom même les reflète.
Deuxième partie. Istanbul, Éphèse, Bodrum, Izmir, Bursa. Avec la participation du professeur Robert Mantran, titulaire de la chaire d'histoire et civilisation de la Turquie et de l'Empire ottoman à l'université d'Aix-Marseille 1. Robert Mantran, nous allons continuer aujourd'hui nos réflexions sur la Turquie à propos du voyage que j'y ai effectué cette année. Et si dans la première émission qui a été diffusée, nous avons parlé de la Turquie d'Atatürk et de son souvenir à l'occasion du 40e anniversaire de sa mort, si nous avons parlé de la Turquie des touristes avec la Cappadoce, centre chrétien d'autrefois, de la Turquie avec la Turquie mystique de Konya, de l'islam, nous allons aujourd'hui aborder d'autres images, si vous voulez, rapporter de cette Turquie, en commençant naturellement par la vieille capitale, la capitale chère à tous les Français, peut-être à tous les Européens, Istanbul, l'ancienne Constantinople, qui nous arrive d'ailleurs toujours d'appeler Constantinople, très souvent.
Oui, le nom est resté tellement ancré dans la mémoire des Français que on ignore parfois Istanbul pour le nom célèbre et prestigieux de Constantinople. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger ce nom de Constantinople au profit unique d'Istanbul. Les deux villes doivent être finalement confondues, les deux noms ne doivent en faire finalement qu'un. Car, ainsi que je le disais dans la première partie, effectivement, cette cité n'a connu qu'une histoire, que cette histoire soit byzantine ou qu'elle soit ottomane. C'est une cité extraordinaire, j'y ai habité pendant de longues années, j'en ai fait même le sujet de ma thèse et par conséquent je crois assez bien la connaître. Mais c'est une ville en pleine évolution, c'est une ville qui historiquement a été marquée par le souvenir des empereurs byzantins qui ont laissé des monuments prestigieux, qui ont laissé non seulement la grandeur de Byzance qui a émerveillé les croisés, qui a émerveillé les latins dans leur ensemble, mais qui a émerveillé également et les musulmans arabes et les musulmans turcs. C'est une ville qui a longtemps résisté aux invasions jusqu'à sa prise en 1453 par les Ottomans. Mais, ainsi que je le disais, au fond, cette conquête par les Ottomans n'a pas été une rupture, ça a été une continuité avec quelques changements. Et encore aujourd'hui, au fond, lorsque l'on voit Constantinople-Istanbul, à partir de certains points de vue extérieurs, que ce soit à Üsküdar ou à d'autres endroits, eh bien, on est frappé par le fait que les grandes mosquées sont la continuité de Sainte-Sophie et des églises byzantines, qu'elles sont situées à des endroits extrêmement bien choisis dans le site de la ville, et qu'au fond, on a un ensemble absolument remarquable du point de vue esthétique. Et je dirais que si ces dernières années, il n'y avait pas eu des bouleversements démographiques dus à des raisons politiques de voisinage avec les Grecs en particulier, on pourrait dire que jusqu'à 1965 et même jusqu'à 1974, Istanbul a véritablement été un carrefour de peuples, un carrefour de civilisations, un carrefour d'hommes de différentes religions, de différentes ethnies, de différentes origines, et qui vivaient dans une parfaite cohabitation pendant des longues années.
Maintenant, ça reste plus typiquement turc.
Oui, alors aujourd'hui, il est incontestable que la ville est turque à 90, sinon 95% du fait du départ des Grecs, de nombre d'Arméniens. Il reste encore une communauté juive importante, mais l'afflux de population venue d'Anatolie a fait que cette ville que j'ai connue en 1945, qui n'avait à peine 1 million d'habitants, en a maintenant plus de 3 millions, et que la différence est faite pratiquement uniquement par des Turcs. Alors ça donne un nouveau paysage, un nouvel aspect urbain, et on pourrait presque dire que Atatürk serait presque ravi de voir que cette ville est devenue turque beaucoup plus qu'elle ne l'était de son temps.
Mais elle reste tout de même un foyer de culture,
oui,
n'est-ce pas?
Bien
c'est
sûr.
Là où se retrouvent quand même la plupart des écrivains, des journalistes, des grands journalistes. Enfin, c'est tout de même à Istanbul que l'on va constamment, d'un endroit ou à l'autre du pays. Il y a un va-et-vient énorme. D'ailleurs, c'était notre cas. Nous sommes passés par Istanbul, revenus, repartis, pour aller d'une ville à une autre.
C'est incontestable. Istanbul est restée, sinon la capitale politique, du moins la capitale intellectuelle. Je dirais plus la capitale intellectuelle que la capitale purement universitaire, car sur ce plan-là, je trouve qu'Ankara fait d'énormes progrès et qu'il y a un dynamisme à Ankara qui, dans certains domaines, n'existe plus à Istanbul. Mais Istanbul, c'est le centre de l'actualité littéraire, journalistique, artistique. Les grandes écoles de peintres turcs sont à Istanbul. La grande école de théâtre est à Istanbul. Les poètes sont sinon d'Istanbuliotes d'origine, du moins d'Istanbuliotes de fraîche date et qui ont adapté leur tempérament, parfois anatolien, à la vie de cette cité. C'est vrai, Istanbul, c'est encore le grand centre intellectuel à côté, évidemment, de ses activités économiques, de ses activités politiques, car malgré tout, une ville de 3 millions d'habitants, c'est la première ville du pays, et cela a un certain poids dans l'ensemble de la nation turque.
Come on. On va s'approcher du montreur d'ours qui est en train de, qui nous a fait une démonstration juste à la sortie de Topkapı d'ailleurs. C'est un très bel ours. Est-ce que c'est un ours turc et quel âge il a?
Şimdi beyefendi bu Türk Türkiye'de bu doğmuş bir ayı mı diye soruyorlar.
Evet, Türkiye'de.
Ne taraftan?
Bolu'da.
C'est un ours de Turquie, de la région de Bolu. Yaşı kaç?
8.
Cet ours a 8 ans.
Est-ce que il fait ça de père en fils? Montreur d'ours.
Bu mesleği nasıl öğrendiniz? Babadan oğula geçen bir meslek. C'est de son père qu'il a appris ça.
Et combien de fois par jour il fait danser son ours?
Aşağı yukarı ne kadar saat çalışıyor bu ayı?
Daha günde, doğrusu beraber günde, çalışıyorsunuz. Günde 6 saat çalışıyoruz.
İldik avec l'ours, il travaille ensemble, c'est un travail de coopération de 6 heures.
Ah. Et ensuite, il l'emmène coucher où?
Çalışmanız bittikten sonra nereye gidiyorsunuz? Evet, beraber mi yaşıyorsunuz? Tabii onun bölmesi
tabii
ayrı.
Tabii onun evi ayrı, onun yatacak yer ayrı, bizim ayrı.
Ils vivent tous ensemble, les deux ensemble, c'est-à-dire côte à côte, je veux dire. Et lui va dans sa maison et dans sa et il a fait construire une cabane tout à fait à côté de sa maison. C'est comme ça une vie presque en commun.
Il aime son ours.
Ayıyla ilişkileriniz yani seviyor musunuz, sevmiyor musunuz
tabii,
diye soruyorum.
Tabii seviyoruz canım. Onun sırtından ekmek kazanıyoruz. Sevmeyiz olur mu?
Il dit que bien sûr que je l'aime parce que c'est grâce à lui que je gagne ma vie. Je peux pas me passer de lui.
Alors ils sont vraiment deux compagnons.
Oui, en effet.
Merci beaucoup.
Petit pèlerinage touristique obligatoire, le palais des sultans.
C'est bon?
Monsieur, vous avez été le guide officiel, et vous êtes encore
oui.
Un des guides officiels du palais de Topkapı.
Oui.
Et pendant de très nombreuses années. Alors je crois oui. Que vous en connaissez tous les recoins, n'est-ce
oui,
pas?
Oui, certainement, je connais. Et ce palais, il est construit du sultan Mehmet II, le vainqueur de Byzance, en 1472. Il s'appelait Palais Neuf. Et puis, les autres sultans, par exemple, le sultan Suleiman Magnifique, il est grandi, et puis il a mis le nom du Topkapı. Ça veut dire porte du canon.
Et ce palais est situé sur une des nombreuses collines d'Istanbul.
Oui. Sur cette colline, à Istanbul, il y en a 7 collines. Sur la première colline, on a construit cette palais du Topkapı. Tous les côtés, on peut voir d'ici, le Corne d'Or, et le Bosphore, la mer Barbara et les îles de Prince et Asie. Tous les parts, on peut le voir d'ici. C'est cette première colline d'Istanbul.
Alors, nous sommes entrés par un grand portail.
Oui, cette porte, il s'appelle Babi Humayun. Ça veut dire porte impériale. Deuxième porte, ça veut dire porte du salut. Ça veut dire porte Babi Selam. Babi Selam, porte du salut. Troisième porte, que vous allez rentrer ici maintenant, c'est Babi Saadi, porte du bonheur.
Moi, Alim le Troisième, empereur magnifique, par la grâce de Dieu, roi des rois, je vous parle. Et je dis, le jour se lève pour tous mes féaux, quand je lève ma main de lumière. L'instant où je vis porte ma chaleur aux vierges inconnues. De ma propre durée, j'ai conclu autant avec condescendance. Ma sagesse est centre de l'univers. Tout chemin converge vers moi. Mes palais, mes demeures, ceux qui les habitent, sont sereins parce que je le suis. Science, poésie, victoire sont mes affranchis. Comme j'ai libéré les grands aigles altiers, je les ai libérés de par toute la terre, que les hommes futurs s'en contentent. Les cieux ne sont qu'un toit au-dessus de ma tête. Dans leur infini bleu et noir, la force est sans borne de mes amours royales, sans borne la houle de mon sang. Je suis la noblesse, la beauté, l'absolu, au-delà de l'humaine connaissance. Je suis Halim, seigneur des seigneurs. Et vous, qui êtes-vous, montagnes et rochers?
Vous êtes maintenant dans la première chambre du trésor ottoman. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, il y a les vêtements de guerre du sultan Mustafa III. Et puis, il y en a des choses en or, les tasses avec les bijoux, ça veut dire avec robin et turquoise. Maintenant, ici, vous voyez le tronc de Sultan Ahmed Ier, ce qu'il a fait, le mosquée bleue, du 17e siècle. Et puis vous voyez, il y a deux émeraudes à côté, et puis un émeraude en haut, un robin, un turquoise, et un poignard de Topkapi. Vous voyez, madame, en haut, les choses que vous voyez sont toutes des émeraudes pour mettre sur le tronc. En bas, sont pour mettre sur le turban. Et bouclés d'oreilles, toutes des émeraudes. Les choses de couronne de roi, et deux émeraudes, un robin, trois, quatre perles, et puis des diamants. Le poignard du Topkapi, émeraude, miniature, or et diamant. On a fait le film de Topkapi avec cette poignard, avec le tronc de Sultan Ahmed Ier.
Alors dans une autre vitrine très protégée,
C'est le diamant de cuillère. Il s'appelle diamant de cuillère, 86 grains, et puis autour de ce diamant, il y en a 49 carats de brillant.
C'est-à-dire un énorme diamant taillé en poire,
taillé.
Et entouré d'énormes diamants.
Oui.
Mais je ne sais pas, je crois que ça a au moins 8 cm de haut, ou 10 cm, ce diamant poire.
Oui. C'est 86 carats. Et autour de ça, il y a 49 carats de brillant, madame. Il appartenait à la femme du sultan.
Ça veut dire, est pur, ce diamant?
Oui, il est pur, certainement, il est pur. Parce que toutes ces choses que vous voyez ici, ce qui n'est pas pur, par exemple, là-bas, vous avez vu les émeraudes. Ce qui n'est pas pur, il n'y a pas de lumière dessus. Ce qui est clair et pur, il y a la lumière dessus.
Au-delà de la quatrième cour du sérail, dans la réclusion la plus absolue, se trouvait le harem, demeure privée du sultan et de ses femmes esclaves, oasis du calme et du repos, où le sultan, maître tout-puissant d'un empire colossal, en pantoufles légères, un simple bonnet de feutre sur ses cheveux rasés, devenait un homme comme les autres. Deux portes en bronze et deux autres en fer, où les eunuques noirs veillaient nuit et jour, était le seul passage du harem que saignait, en outre, un mur épais. Aucun regard, aucune parole profane ne devait effleurer le harem. Pour le sultan seul se levait le mystère. Lui seul en pénétrait le secret. Tout autre homme qui s'y serait égaré aurait été transpercé sans pitié par les sabres de ses inflexibles gardiens, les incorruptibles eunuques noirs. C'est là, dans ce paysage de rêve, où apparaissaient, à travers les ramures des pins, les courbes hardies du Bosphore, large ruban d'azur, que les charmantes esclaves voyaient couler leurs jours, ravies et fières d'être captives d'un puissant sultan. C'est là, dans la douceur veloutée des salons, des salles de cérémonie au marbre patiné, au tapis moelleux, dans les kiosques dispersés parmi les cyprès, les pins et les platanes, que se nouaient et se défaisaient tant d'intrigues, et parfois, le sort des peuples. L'appartement de la nouvelle sultane se composait de plusieurs chambres et salons aux murs recouverts entièrement de faïences rares, représentant des tulipes, des œillets, des guirlandes. Les tons bleu roi étaient si purs, si éclatants, qu'ils donnaient l'impression délicieuse d'un véritable jardin. Certaines baies de l'appartement ouvraient sur la placide corne d'or, d'autres regardaient le Bosphore, ses eaux vivantes à petites lames courtes. Paysage enchanteur qui ne semblait pas émouvoir Roxolane autant que les objets précieux, les miniatures persanes, les ivoires sculptés, les coupes d'or qui ornaient les étagères et les tables basses. De ses terrasses, elle voyait d'un côté la mosquée du harem et son minaret élancé, de l'autre, la cour de la sultane validée avec sa profusion de roses et de glycines. Les soirs d'hiver, lorsqu'elle s'ennuyait, elle pouvait flâner avec ses suivantes dans la belle salle à la fontaine ou dans la salle à la cheminée, pourvue d'une cheminée ornée de faïence jaune très rare et très précieuse. Extrait de « La sultane Roxolane » de Viorica Stircher.
Burhan Felek, doyen des journalistes turcs, 88 ans, chroniqueur au journal Milliyet.
J'ai fait la guerre sous l'Empire ottoman. Première guerre mondiale, j'étais officier. J'ai vu Abdülhamit II, Mehmet V et Mehmet VI, dernier sultan, et le dernier calife, Abdülmecid II. J'ai vécu aussi la révolution de 1908. C'est la deuxième constitution, nous l'appelons ça. Et j'ai créé depuis 1926. J'écris chaque jour un article. Et j'écris, par exemple, sur le shish kebab. Et demain, le lendemain, j'écris sur le sport. Et après le lendemain, j'écris sur le contrôle de naissance, n'est-ce pas ?
Les impôts.
Et quelquefois, je fais aussi un peu d'humour. Je cite souvent une anecdote. Ces anecdotes, j'en sais des milliers. La France est un pays où il y a la liberté d'expression depuis des siècles. Mais en Turquie, cette liberté qu'aujourd'hui nous possédons ne date que d'une vingtaine d'années. Alors, avant, pendant des siècles, l'esprit humoristique des Turcs ont fait d'anecdotes, n'est-ce pas ? Toutes ces anecdotes ont un esprit de critique. Surtout Nastatin Hoca, nous ne connaissons rien de ce bonhomme. C'est un philosophe qui a vécu peut-être au commencement des Ottomans, n'est-ce pas ?
Oui.
Mais regardez quelle force d'esprit et de critique que, et malgré aucun document, nous possédons encore une centaine d'anecdotes qui appartiennent sûrement à lui.
Une des histoires de Nasreddin Hoca.
Un jour, Nasreddin monte en chaire pour prêcher. Ô croyants, que vous dirai-je ? Le savez-vous ? L'assemblée répond : Non, Hoca Effendi, nous ne le savons pas. Alors le Hoca : Puisque vous ne le savez pas, que pourrais-je vous dire ? La fois suivante, Nasreddin interroge : Ô croyants, de quoi parlerai-je aujourd'hui ? Le savez-vous ? Et l'assistance de répondre cette fois : Oui, nous le savons. Eh bien, si vous le savez, que me reste-t-il à vous apprendre ? Enfin, une troisième fois, le Hoca monte en chaire et déclare : Frère, que vous dirai-je aujourd'hui ? Le savez-vous ? Un des fidèles, au nom de tous, fait cette réponse : Hoca Effendi, certains d'entre nous le savent, mais les autres l'ignorent. Très bien ! Que ceux qui le savent enseignent à ceux qui l'ignorent.
Monsieur Felek, vous avez connu la Turquie des sultans, la Turquie d'Atatürk, et maintenant vous vivez dans une Turquie qui est en proie, comme beaucoup d'autres pays dans le monde et en Europe, à des crises difficiles, n'est-ce pas, économiques et de la jeunesse aussi, contestataire. J'aimerais que vous me donniez votre opinion sur toute cette évolution. Est-ce que vous pensez que c'est une évolution qui va dans le sens normal des choses et qu'un équilibre va se trouver au bout ? Est-ce que vous pensez que c'est un changement de société en Turquie comme ailleurs ? Qu'est-ce que vous pensez de tout cela ?
Moi, je veux vous dire une chose. La Turquie a traversé des temps beaucoup plus difficiles que ça, dont nous avons l'habitude pour les difficultés. Maintenant, nous avons deux difficultés, intérieures et extérieures. La difficulté intérieure est une crise politique. On a divisé les jeunes gens à deux camps. Et derrière ces deux camps, je suppose qu'il y a certaines forces, n'est-ce pas, cachées, qui l'encouragent. Et comme le gouvernement actuel est un gouvernement démocratique qui est contre la brutalité et des mesures extraordinaires, il tâche de surmonter ces difficultés et de corriger ces jeunes gens par la douceur. village.
Oui, nous l'avons constaté d'ailleurs.
Constaté, oui, n'est-ce pas?
Oui.
Moi, je ne suis pas de cet avis, pour vous dire. Je vous dis la vérité, n'est-ce pas? Mais je respecte, n'est-ce pas, cette idée, parce que cette idée, c'est une idée tout à fait humaine, n'est-ce pas? Et si on n'arrivera pas à surmonter ces difficultés, c'est-à-dire assurer la sûreté intérieure, et certainement, on va prendre des mesures beaucoup plus radicales, n'est-ce pas? Et pour les difficultés économiques, nous avons trouvé pas mal de devises étrangères, n'est-ce pas? Alors, pour l'économie, ça déjà, nous avons...
Ça va mieux.
Ça va mieux. Ça ira mieux. Ça ira mieux.
Ne parlez pas. İzmir'e gitmek isteyen yolcuların bir şans almak üzere Türk Hava Yolları İzmir Bankosu'na gelmeleri rica olunur.
Turquie Égéenne, Efes, Bodrum, İzmir.
Lütfen dikkat! Türk Hava Yolları'nın TK-203 seferiyle İzmir'e gidecek yolcuların çıkış kapısına gitmeleri, biniş kartlarını hazır bulundurmaları ve uçak başında bagajlarını ilgili memura göstermeleri rica olunur.
Monsieur Turkoglu, directeur des antiquités et du musée d'Éphèse.
Il y a seulement une semaine qu'on a découvert, c'est un paysan qui a découvert. Il nous a appelé, n'est-ce pas, dans son champ, n'est-ce pas? Il a découvert un sarcophage, un très très joli sarcophage. On a dégagé la terre qui se trouvait à côté, et puis ce sarcophage est un merveille. Et
nous l'avons sous les yeux, d'ailleurs, dans la cour.
Oui, vous voyez, 9 muses côte à côte, n'est-ce pas? 9 muses représentées comme une dame avec leur string dans la main. Et dans une autre côté, il y a des guirlandes, de l'autre côté. Et malheureusement, à l'époque byzantine, les voleurs, à l'époque, ils ont volé ce qu'il y avait
dedans.
À l'intérieur, dedans. C'est pour ça, alors, ils ont cassé une partie de couvercle de ce joli sarcophage, mais quand même, ça sera à peu près une des 10 chefs-d'œuvre de notre musée.
C'est de quelle époque?
De l'époque romaine, du 3e siècle après Jésus-Christ.
Alors, cela veut dire qu'à Éphèse, actuellement, dans les champs qui environnent la vraie ville, la vie vivante, je veux dire, on trouve encore des objets antiques.
Ah oui. Vous savez, à Éphèse, on travaille comme fouille, comme excavation, depuis 100 ans.
Mais
malgré,
n'est pas un vieux.
Oui, mais malgré cela, on a dégagé seulement 1/8 de la ville. Il y a encore tant de choses, tant de travail, n'est-ce pas? Je ne sais pas que dans 100 ans prochains, n'est-ce pas, on ne peut pas terminer tous ces endroits ou bien tous ces travaux.
Les paysans sont tout à fait compréhensifs.
Oui, les paysans maintenant, ils sont bien. Et alors quand ils trouvent quelque chose, ils viennent tout de suite au musée. Ils nous disent ce qu'ils trouvent. Et nous leur donnons quelques...
Un peu d'argent,
bien sûr.
Vous croyez qu'il y a des objets chez eux, comme ça, qu'ils ont gardés?
Non. Parfois, on voit alors quelques petits objets, ou bien un morceau de chapiteau, une colonne, n'est-ce pas, dans le cour, ou bien dans le mur, n'est-ce pas? C'est pour leur...
Leur joie.
Leur joie, oui. N'est-ce pas, pour orner leur maison. Alors, si ça existe, n'est-ce pas, depuis, par exemple, 20 ans ou bien 30 ans, on ne dit rien. Mais s'ils veulent faire quelque chose comme ça aujourd'hui, alors on leur interdit.
Allah'a emanet olun.
Monsieur Dündar Özé, le hasard m'a permis de vous rencontrer alors que vous veniez d'Ankara, où se trouvent vos bureaux, pour passer 2 à 3 jours à bord de votre yacht Ersin, qui est ancré à Kushadasu, et sur lequel nous venons de croiser au large de Kushadasu, sur la côte sud de la Turquie. Vous êtes un des hommes d'affaires les plus éminents de Turquie. Je sais que vous vous occupez de recherche pétrolière. Est-ce que la Turquie, dans son domaine, a de l'espoir?
Benim idare meclisi başkanı bulunduğum ve büyük hisselerine sahip olduğum anonim şirket, Türkiye'de yegane milli petrol şirketi olup, gerek aramada, gerek rafineri sahalarına ve gerek istihsale yönelik bir şeyi vardır. Tamam. Türkiye'de büyük miktarda petrolün bulunduğuna kani bulunmaktayız.
Je me trouve comme président au conseil d'administration d'une compagnie nationale indépendante qui fait des recherches au sud-est de la Turquie. Ce sont des recherches pour la prospection et le raffinage du pétrole. J'ai grande confiance dans l'avenir que nous trouverons du pétrole en grande quantité en Turquie, mais d'après moi, c'est le système de prospection qui semble déficient et nous devrions y remédier avec tous nos moyens.
La Turquie ne se trouve-t-elle pas dans une position extrêmement délicate du fait qu'elle fait partie de l'OTAN ? Et qu'elle est frontière avec 3 pays communistes, c'est-à-dire l'URSS, la Bulgarie et la Roumanie.
Türkiye, bilindiği gibi Asya ile Avrupa arasında bir köprü başıdır. Bizim NATO ile olan ilişkilerimiz kadar da kendi komşularımızla ki bu komşuların etrafımızdakilerin birçoğu Varşova Paktı'na yahut da NATO'ya üye olmayan.
La politique extérieure de la Turquie est de rester membre de l'OTAN tout en continuant ses bonnes relations.
Kendileriyle yani Varşova Paktı üyeleriyle de Türkiye büyük bir dostluk içinde halen bulunmaktadır.
Cela est dû à sa situation géopolitique car elle forme un pont entre l'Asie et l'Europe. Il est évident aussi qu'il y a une étroite coopération entre les pays membres de l'OTAN et ceux membres du pacte de Varsovie.
Ve bunun neticesi de Bulgaristan, Romanya ve gibi Varşova Paktı üyeleriyle de gelişen münasebetlerimiz çerçevesi içinde tahmin ediyorum ki NATO'ya dahil diğer ülkelerden çok daha hiçbir problemsiz bir şeyimiz mevcuttur. İlişkilerimiz mevcuttur.
Il est intéressant de noter qu'actuellement, si la Turquie n'a pas de problème avec ses voisins de l'Est, y compris la Russie et la Bulgarie, elle en a par contre de délicats avec certains pays membres de l'OTAN.
Fakat tahmin ediyorum ki NATO ülkeleriyle olan bu problemlerimiz de en yakın zamanda sulhen halledilip normal münasebetler çerçevesine geçmemiz hem dünya için hem Türkiye için mutlak lazımdır.
Je suis sûr que la normalisation de nos relations avec les membres de l'OTAN se réalisera dans un avenir très proche. Et nous serons dans une atmosphère pacifique.
Bodrum.
Thank you.
Sirijan, nous dînons dans un merveilleux endroit que je crois vous diriger.
Vous êtes très gentil, merci beaucoup. C'est un caravansérail qui a été bâti en 1769. C'est le typique Han, qui veut dire auberge ottomane. C'est un bâtiment typique qui garde toujours son cachet local, qui appartient à deux personnes que nous avons louées pour 10 ans et que ma femme, qui est une décoratrice, et un ami qui s'appelle M. Beyhan Türer, qui l'ont restauré. Eux, ils ont restauré. Moi, je continue avec la restauration là-dedans.
Vous parlez admirablement français, avec toutes les subtilités de notre langue, je vois.
Quel compliment, j'essaye.
Vous avez dû aller dans une école française, n'est-ce pas?
Oui, une école qui s'appelle Saint-Michel, dirigée par les frères jésuites à Istanbul. D'ailleurs, on en a beaucoup. Il y a Saint-Michel, Saint-Joseph, Saint-Benoît. À notre époque, c'était pour les garçons. Maintenant, il y a les filles aussi.
Alors, vous allez pouvoir nous parler de Bodrum, parce que Bodrum a un certain renom en France. On dit que c'est le Saint-Tropez d'avant la guerre, c'est-à-dire un petit port ravissant, typique et pas encore trop gâché.
Oui, à ce point de vue, vous avez raison. C'est une sous-préfecture turque qui garde son cachet local, qui a toujours une influence grecque aussi, avec ses petites maisons blanches. Peut-être la route étant très mauvaise.
Ah oui, ça c'est une expédition pour venir en ce moment. Nous avons mis plusieurs heures dans une poussière considérable. C'était très... un peu éprouvant, mais ça protège peut-être Bodrum.
Évidemment, j'ai peur que quand l'asphalte sera terminé sur la route, nous allons perdre la protection. Mais heureusement, la protection du gouvernement empêche les bâtiments qui sont extraordinairement horribles.
Et dans l'hiver, est-ce qu'il y a des gens qui résident ici, des artistes, des écrivains, des... je ne sais pas, enfin, on m'a dit que c'était assez intellectuel aussi, Bodrum.
Oui, à un point de vue, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont assez des problèmes des grandes villes comme Istanbul, avec 4 millions d'habitants, ou bien comme Ankara, capitale de la Turquie, qui sont venus s'installer à Bodrum. Il y a des architectes, des peintres, des artistes.
Et la saison dure combien de temps?
La saison, en ce qui concerne la température, ça commence au mois du, disons, à mi-avril, et ça continue facilement jusqu'à fin octobre. Mais à cause des examens des étudiants, on trouve beaucoup de gens seulement en juillet, août et septembre.
Alors en somme, les touristes qui viennent l'été ici sont surtout des touristes turcs malgré tout.
Oui, surtout après les dernières décisions du gouvernement turc que les Turcs ne peuvent pas quitter le pays pour les, comme touristes qu'une fois par deux ans. Il y a beaucoup de touristes turcs qui fréquentent Bodrum.
Monsieur Arutjan, vous avez en attraction un chanteur, musicien typique, n'est-ce pas?
Oui, c'est un monsieur qui s'appelle Ender, qui est de Bodrum et qui joue le saz, S-A-Z. C'est un instrument de musique turque. Et je ne suis pas un connaisseur de la musique, mais je pense qu'il n'y a que 3 notes, pas les 7. Mais ce qu'il chante actuellement, c'est une chanson... du côté de la mer Noire. Peut-être nous allons écouter une chanson locale aussi.
Il y a aussi des chansons de Bodrum même.
Oui, évidemment, il y en a quelques et que nous chantons souvent chez nous au restaurant Han.
Est-ce que ce sont des chansons de mer?
Oui, celle-là qu'elle chante, c'est une chanson de mer. C'est une sorte de balade.
Il y a toujours des pêcheurs.
Mais évidemment.
Et ils chantent?
Ils essayent de chanter. Ils ne sont pas professionnels, mais ils chantent sans doute. Et évidemment, ils chantent quand ils pêchent bien.
Il y a deux anthologies de la poésie turque qui ont été publiées en français. La première est l'œuvre de Madame Nimet Arzik, qui habite Bodrum, mais que nous n'avons pas pu rencontrer. Et la deuxième est votre œuvre, Monsieur Akil Aksan, qui est d'ailleurs délégué permanent à l'UNESCO pour la Turquie. Et c'est donc avec vous que je vais évoquer cette poésie turque qui nous a beaucoup étonnés et frappés parce que tout le monde parle de poésie en Turquie. Il semble que tout le monde, à partir du Premier ministre d'ailleurs, M. Ecevit, soit poète.
Je ne dirais pas que nous sommes une nation poétique ou de poètes, si vous voulez. Mais la constatation suivante en dit long. De nos jours où le nombre des recueils de poèmes diminue un peu partout dans le monde, en Turquie, la publication des recueils de poésie augmente de jour en jour. De telle façon que sur 3 livres qui sont publiés, il y en a un qui traite ou de la poésie, ou bien qui est lui-même un recueil de poèmes ou une anthologie.
Ces poètes qui sont si nombreux en Turquie, est-ce qu'ils peuvent vivre de leur publication poétique?
Le poète est universel. Je ne fais pas de distinction entre un poète turc ou français ou quoi que ce soit. Un poète, c'est un poète malgré les frontières, parce que pour un poète, pour la poésie, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de pays. Donc, ce qui arrive à un poète français, c'est le cas d'un poète turc, ils ne peuvent pas vivre de leur plume. Ils essayent, ils vivotent.
Et qu'est-ce qu'ils chantent, ces poètes? Est-ce qu'ils chantent leur pays, l'amour? Est-ce qu'ils sont contestataires? Est-ce que... ils ont des idées sociales.
Les poètes turcs ne sont pas différents des autres poètes. J'entends par là que... Je parle de l'idée que la poésie est universelle et indivisible. Le poète turc chante ce que chantent les autres poètes, que ce soit la patrie, l'amour, ou bien les ennuis quotidiens ou la souffrance. J'entends par souffrance la souffrance du paysan anatolien, ou bien la souffrance de la vie quotidienne, tout ceci. Donc, il n'y a pas de différence entre un poète turc et un poète français ou autre. C'est ça qui fait l'universalité de la poésie, à mon avis, et c'est ça tout mon effort d'essayer de traduire ce poème, ces poèmes, si vous voulez, en français, pour justement démontrer que la poésie est universelle, et que malgré la distance, malgré la frontière, la poésie est une.
Moi, je peux vous dire en conclusion, peut-être que j'ai lu tous ces poèmes traduits en français qu'il y a dans les deux anthologies, la vôtre et celle de Madame Nimet Arzik. J'ai lu aussi les petits fascicules qui ont été édités en France pour le Festival international de poésie de Paris. Et je crois que tout de même, les poètes turcs ont une sensibilité extrêmement grande et que peut-être plus que les autres poètes d'autres nations, ils expriment quand même
un sentiment de leur patrie plus grand. Ils ont un attachement à la terre turque qu'on ne trouve plus guère dans les poètes européens.
Oui, c'est bien le cas. C'est une espèce d'atavisme à laquelle vous faites attention, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas oublier que nous sommes venus de l'Asie centrale, que nous sommes plantés en premier lieu en Anatolie, et ensuite en Thrace, et ensuite dans les différents pays de l'Europe. Il est évident et naturel que le Turc, que le poète turc, tout simplement, soit attaché à son terre et qu'il chante la beauté de sa terre natale, de son pays natal. Et ce qui m'a, en faisant un tour d'horizon des poètes et des poèmes écrits depuis 1910, et qui sont dans mon anthologie, ce qui m'a frappé, c'est le grand pourcentage, si vous voulez, le grand nombre des poèmes qui traitent justement, comme vous faites allusion, du pays et du patriotisme. Je vois bien, et je l'avoue, c'est un sentiment qui est un peu propre, si vous voulez, à la poésie turque.
Et aux romanciers turcs.
C'est ça qui fait l'universalité, n'est-ce pas? Parce que la différence, c'est ça qui fait l'unité. Ne güzelsin vatanım benim. Güzel olduğun kadar da dertli. Senin güzelliğinin farkına varmayacak kadar kör gözler. Senin acılarınla yanmayacak kadar duygusuz yürekler terk etmişler seni bu derin yalnızlığa. Oysa acılarınla yanmayan derdine derman bulabilir mi senin?
C'est une chanson votre il y a deux cents ans, un homme vivre ici et il aime une jolie femme et il veut marier avec elle, mais le président de Bodrum aime aussi cette jolie femme et il prend ses femmes et il tuait et le garçon et cette chanson dit cette histoire. Je calme. Başım selamet. Çökertmeden çıktım da halelim. Aman başım selamet. Vitezde yalısına varmadan halelim. Aman koptu kıyamet. Vitezde yalısına varmadan halelim. Aman koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ım